Bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes sur Radio Galère au 88.4 FM. Vous écoutez l'émission de La Forêt des Possibles en partenariat avec Écoforum. Nous sommes le mercredi 3 juillet 2024 et vous pourrez retrouver cette émission en replay. Chères auditrices, chers auditeurs, quel que soit l'endroit d'où vous nous écoutez, l'état du monde vous préoccupe et vous questionne. Vous observez les effets du dérèglement climatique, les tensions sociales, la situation mondiale vous préoccupe, mais il y a aussi les tracas du quotidien, le travail, ses proches, ses passions. Alors comment concilier tout cela? Concilier la fin du monde et la fin du mois? Que faire quand tout nous dépasse? Comment trouver sa juste place dans un monde incertain? Chaque mercredi, sur les ondes de Radio Galère, notre émission tente de répondre à ces vastes questions. La Forêt des Possibles est une émission qui donne la parole aux acteurs et actrices des transitions écologiques et solidaires de Marseille et de sa région, semaine après semaine. En découvrant leurs questionnements, leur engagement, leurs projets, nous tissons les liens entre ces initiatives. Seuls, ils seraient comme des arbres isolés, mais ensemble, ils forment une grande forêt qui chaque jour s'enracine, pousse, donne du fruit et montre la voie d'une société résiliente, créative et solidaire. Chères auditrices, chers auditeurs, l'émission de La Forêt des Possibles est une grande invitation. Nous pensons que vous aussi, vous avez votre juste place à prendre, du moi au nous et du nous au tout, dans une société qui respecte les besoins humains et les ressources de la planète. À ce micro, nos invités témoignent qu'il est possible de bâtir collectivement le monde de demain. Je m'appelle Lucille Journe-Moalic, je suis accompagnée dans ce studio de Marin Maufray.
Bonsoir Lucille, bonsoir Dorian et Mathieu.
Et Mathieu à la régie.
Bonsoir à tous.
Bonsoir à tous.
Et ce soir, nous recevons Dorian Testa de Carbon Blue.
Bonsoir.
Bonsoir Dorian. Et donc pour celles et ceux qui nous écoutent, on va faire une petit clin d'œil parce que c'est ta dernière avec nous, Lucille. Et donc on est très heureux de pouvoir que tu aies été avec nous sur ce chemin et de pouvoir partager le micro avec toi pour ce soir. Et pour les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent, eh bien on vous propose le chemin un peu habituel qui est celui de se plonger dans un parcours avec les questions qu'on a pu avoir, les projets qu'on peut mener et puis comment est-ce qu'à sa juste place on arrive à transformer la société. Et ce soir donc c'est toi Dorian qui vient témoigner et sans plus attendre, avant de parler de Carbon Blue, eh bien, je te propose de pouvoir te présenter dans ce que tu es et dans les questions qui ont pu te traverser.
Déjà bonsoir, merci beaucoup, merci de m'accueillir sur votre antenne. Peut-être pour commencer, lorsque l'on a préparé cet entretien-là, lorsque tu m'avais parlé de cette phrase du moi au nous et du nous au tout, j'ai vraiment trouvé cette phrase très très juste et je pense que réellement c'est un des premiers enjeux qu'il faut que l'on vive et que l'on essaie de pousser au maximum pour rendre notre société meilleure. Alors, je m'appelle Dorian Testa, je suis marseillais, je suis de la cinquième génération d'une famille italienne immigrée qui travaille initialement dans le bois, et je suis la quatrième génération d'une famille qui travaille dans le plastique, et plus récemment dans le plastique recyclé, depuis les années 90. Je suis père de deux enfants et je travaille chez Carbon Blue, une entreprise qui a été fondée par Stéphane Testa il y a 4 ans et qui est une entreprise qui vise à faire du recyclage plastique. Voilà. Et du coup, moi, je porte ce projet dans mon héritage, dans cet héritage un peu familial et dans cette notion responsable de qu'est-ce que l'on peut faire, comment est-ce que l'industrie française peut-elle évoluer vers une industrie beaucoup plus juste et beaucoup plus sensée et beaucoup plus humaine. Donc je vous dis, j'habite à Marseille. Notre usine se situe du côté de Gemnos et on travaille avec quatre autres employés ainsi que moi-même et nous travaillons du coup pour récupérer des déchets plastiques à échelle locale pour recréer de l'emploi local.
Merci. C'est quoi le chemin entre le petit Dorian qui voit son père, son grand-père travailler dans le plastique et le Dorian de maintenant qui vient nous présenter Carbon Blue à la radio? Qu'est-ce qui s'est passé?
Alors initialement, je ne travaillais pas du tout dans ça. J'ai fait des études d'informatique, de gestion de projet informatique. Et il y a de cela 4 ans, mon père Stéphane a créé ce projet. Et il y a à peu près 2 ans, j'ai rejoint le comité stratégique et directionnel de ce projet. Sans forcément trop mouiller le maillot, en voyant un peu ça de manière externe, sans forcément me dire que j'allais prendre part à ce projet-là. Je faisais un petit peu ma vie de mon côté. Et véritablement, lorsque des échéances concrètes et lorsqu'une vraie prise de responsabilité s'est faite il y a à peu près 6 mois, j'ai décidé de rejoindre cette entreprise-là. Et donc j'ai quitté l'emploi dans lequel j'étais initialement depuis 5 ans pour du coup vraiment rentrer dans cette lignée-là et d'être acteur plutôt que d'être spectateur de tout ce qui était en train de se jouer aujourd'hui.
Et tout à l'heure, quand on préparait l'émission, tu disais que une des choses importantes pour toi, c'était la question du bon sens. Qu'au-delà de la question de ce que tu appelais les idéologies qui peuvent être une certaine vision sur le monde, toi ce qui t'importe ça va être le concret et ça m'intéresse que tu puisses aussi définir ce que tu appelles le bon sens et sa direction.
Alors en effet ce projet-là tel qu'on le drive, je considère qu'il est plus ancré dans le réel et dans le concret que lié à une, entre guillemets, une idéologie qui ne serait pas dans le réel. Les idées nous permettent d'avancer, mais elles ne doivent pas être le moteur premier. On doit d'abord travailler et vivre avec des hommes et des femmes, travailler avec des matières concrètes comme le plastique. Et dans cette notion de ça n'est pas idéologiquement forcément le moteur, c'est que lorsqu'on voit la production annuel par exemple de plastique en France qui est de l'ordre du million, lorsqu'on se rend compte que dans toute cette masse de plastique là moins de 30% est recyclé, on se dit mais enfin, est-ce que concrètement on n'a pas les moyens ou est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui joue dedans, et nous on a trouvé une solution qui est viable, qui pour le coup peut faire réindustrialiser la France, recréer de l'emploi pour des personnes en France et qui est économiquement viable. Donc pour nous ça tombe sous le bon sens, et le but est pas tant de vouloir faire du business à tout va et de vouloir faire de l'écologie un business, mais bien au contraire, c'est que véritablement il y a du travail dans ce domaine là il faut juste des personnes qui viennent porter un projet pour que du coup ce projet là puisse être vécu avec d'autres personnes sur un territoire local.
Là, c'est vraiment le moment de passer du mot au nous et donc de rentrer les pieds dans le plat et que tu nous présentes en fait ce que c'est que Carbon Blue.
Alors,
très rapidement.
Carbon Blue, donc je vous l'ai déjà dit, est une entreprise qui a été créée par mon père, donc qui est dans cette lignée aussi de cette famille qui travaille dans la plasturgie depuis maintenant 4 générations. Et pourquoi avoir créé ce projet-là ? Que dans le groupe familial, il y a d'autres usines qui existent pour du traitement de recyclage plastique. Pourquoi avoir créé Carbon Blue ? Carbon Blue est parti du constat que si on fonctionne dans le fonctionnement classique de vous avez une usine avec un bâti et vous amenez la matière à l'usine, ça fait que vous pouvez récupérer des déchets de l'autre bout du monde pour venir les retraiter en France. Or, en ayant tout ce transport de matière qui pour le coup est un transport qui a un poids et dans son bilan carbone, on s'est posé la question, tiens, est-ce que l'effet inverse ne pourrait pas être faisable ? Et donc, on a fait le pari de faire des micro-usines qui soient non plus forcément des bâtis stables dans lesquels on apporte de la matière, mais plutôt des usines mobiles qui iront jusqu'au gisement de du coup, ces matières-là. Notre héritage familial aussi nous a permis de créer un process qui est très simple, où on récupère les déchets plastiques que l'on va ensuite réduire, on passe de gros volumes à des petits volumes, c'est la première étape qu'on appelle l'étape de la réduction. Puis ensuite, la seconde étape, lorsqu'on a réduit cette matière-là, on la fait chauffer. Avec des machines que l'on a dans notre usine, on fait atteindre la température de cette matière-là au-delà du point de rupture, du point de fusion de cette matière broyée pour ensuite pouvoir lui faire prendre une autre forme dans un moule. Aujourd'hui, on utilise principalement des moules carrés d'environ 1,20 m sur 1,20 m, ce qui du coup nous fait avoir des déchets plastiques que l'on a ensuite réduits, qui deviennent ensuite des petites pellettes. Ces pellettes-là, dont on fait ensuite des plaques, donc c'est la première étape de la réduction, la deuxième étape de la fusion, et la troisième étape, la dernière étape, qui est l'étape de la fabrication. Une fois que l'on a ces plaques-là, notre désir aussi n'est pas seulement d'être un passe-plat entre deux industriels et de juste broyer de la matière, mais c'est de véritablement pouvoir, dans un écosystème local, à partir de déchets qui voulaient être expulsés ou enfouis, ou même brûlés, on arrive à créer des choses concrètes. On arrive à créer des bancs, des chaises, des tables, des objets de décoration, des portes de protection anti-feu, des protections de bateaux. Et donc, notre process là, c'est vraiment un process qui est simplifié au maximum en ayant trois étapes: réduction, fusion, fabrication.
Et ce qui est intéressant là dans ce que tu nous as présenté, c'est la question de, avant l'arrivée du plastique, la transformation du plastique et ce que vous en faites. Et ce que je te propose, c'est de pouvoir s'arrêter un peu plus longuement sur chacune de ces trois étapes pour celles et ceux qui nous écoutent. Mais avant ça, peut-être que... on a l'impression que ça peut être quelque chose d'assez linéaire, en fait, se dire on récupère du plastique, on le transforme, on le revend, et alors qu'on cherche à promouvoir peut-être plus de circularité avec les règles des 5 R que sont refuser, réduire, réutiliser, rendre à la terre et recycler. Est-ce que tu peux nous présenter en amont comment est-ce que ça se passe? Tu nous disais que c'était des petites usines mobiles qui vont au niveau du gisement. Qu'est-ce que ça signifie?
Ça signifie que l'impact que l'on a est vraiment, donc en étant plus proche du gisement, le transport du coup n'est plus une nécessité et ne pèse plus dans la balance du bilan carbone de notre activité. Ce que cela implique aussi, c'est que en étant plus proche du gisement, on peut créer de manière locale des emplois sur un endroit spécifique. Pour vous donner un exemple très très concret, on travaille avec une entreprise qui s'appelle MB92 sur le port de La Ciotat, qui fait de la rénovation de yachts. Donc ils ont un emplacement sur La Ciotat et à la suite de chacun de leurs chantiers de rénovation, ils ont une grande quantité de déchets plastiques qui pour eux sont des impondérables. Il y en a besoin pour protéger les coques des bateaux, pour protéger ces yachts-là. Sauf que tous ces déchets plastiques aujourd'hui ne sont pas traités pour être soit réutilisés, soit réemployés. Et donc nous, on va au pied de ces bateaux, enfin vraiment, on est à une dizaine de mètres, dans lequel on a une micro-usine qui tient dans un conteneur, donc dans un conteneur 12 pieds, dans lequel on a des machines, et on a un de nos agents qui va là-bas, qui récupère la matière plastique et qui, du coup, fait que le flux en entrée est le plus court possible. On essaie vraiment de faire en sorte qu'il y ait le moins d'interlocuteurs entre chacun de ces flux-là, donc dans les flux entrée, le flux interne et le flux sortant. En réduisant le nombre d'interlocuteurs, on est beaucoup plus efficace. On est beaucoup plus aussi sur une échelle humaine. On ne passe plus d'un process vers un autre, mais c'est vraiment d'un chantier de personnes humaines à personnes humaines.
Donc si moi je me projette, votre territoire d'action, c'est le métropole d'Aix-Marseille, globalement.
Oui, tout à fait.
Et donc vous allez transporter une sorte de conteneur dans lequel se trouve une micro-usine et vous allez comme ça, de façon itinérante, aller vers des entreprises qui ont des gros gisements de sortie, qui sont pour eux des déchets, qui sont pour vous de la ressource. C'est
alors,
ça
c'est... alors oui, c'est ce vers quoi on tend. Parce que les problématiques ne sont pas constantes. Pour vous donner aussi un autre exemple, lorsqu'il y a des foires, à la foire de Marseille ou n'importe quelle autre foire, vous avez des moquettes plastiques qui sont mises au sol, et ces moquettes-là deviennent des déchets dès lors que la foire s'est arrêtée. Et donc, du jour au lendemain, on passe d'un endroit où il y avait un gisement qui était minime à une quantité astronomique de ces déchets plastiques. Et donc le but n'est pas tant de créer un bâti au niveau de la foire de Marseille, au niveau du parc Chano, mais de pouvoir avoir, lors de certaines campagnes de réduction ou lors de certaines campagnes de recyclage de ces bâches plastiques ou de ces moquettes plastiques, pour que du coup les coûts soient beaucoup plus ajustés et que on rentre vraiment dans une économie de la fonctionnalité. Lorsque vous avez, et malgré tout, c'est comme ça que les entreprises fonctionnent. Lorsque vous avez des entreprises qui doivent gérer des foires au parc Chanot, elles doivent payer un emplacement, elles doivent gérer tous les matériaux qu'ils ont en entrée et en sortie, donc notamment leurs déchets plastiques. Ces entreprises-là veulent pouvoir, à un moment donné, avoir une prestation qui leur soit faite, mais pas forcément une prestation sur toute l'année, parce qu'ils n'ont pas un gisement assez important pour que ça dure toute l'année. Et donc nous, le but, c'est de pouvoir apporter une solution qui soit viable durant des campagnes, et du coup, de pouvoir avoir cet atelier, alors cette micro-usine itinérante, sur des endroits stratégiques et clés, sans forcément devoir mettre du béton en plus pour créer une nouvelle usine, sans forcément avoir à altérer l'écosystème un peu local au sens environnemental de recréer de nouveaux bâtiments. Voilà.
Tu as parlé d'économie de la fonctionnalité, comme on aime bien faire du lien dans l'émission de La Forêt des Possibles. On a reçu une personne qui s'appelle Gwenaël Carvajan, qui a notamment créé la roue de Marseille et qui travaille au Super Cafouche. Et donc c'était en janvier dernier, vous pourrez retrouver cette émission si jamais vous voulez creuser cette question que l'économie de la fonctionnalité.
Très intéressant.
Est-ce que, donc, vous avez aucun bâti ? À chaque fois, c'est que du mobile itinérant qui...
Non, aujourd'hui, on a un bâti qui est, je dirais, l'usine pilote, l'usine principale dans laquelle, comme on doit montrer à des personnes qui seraient intéressées par notre concept, on doit leur montrer que que l'on est viable économiquement et que c'est un projet professionnel. Il y a d'autres entreprises qui ont une autre démarche, qui ont une autre vision que la nôtre et qui font ça très très bien. Je pense notamment à Précieuse Plastique qui fait un énorme travail de vulgarisation de notre métier, donc de recycleur et de créateur de plaques ou même de création de produits qui font vraiment ça très très bien. Nous, on essaie vraiment d'aller sur un domaine où on rentre plutôt sur du semi-industriel, voire de l'industriel, en gardant malgré tout, lors de la création de produits finis, on reste quand même dans une notion d'ébénisterie et de menuiserie, où on essaie quand même de pouvoir avoir une finition d'objet qui puisse être quand même travaillée à la main, avec une aide automatique ou semi-automatique.
J'allais y venir, donc vous allez jusqu'à la transformation du produit, vous en faites des plaques, et elles servent à quoi ?
Alors du coup, on a des plaques donc, qui font sensiblement 1m20 sur 1m20. Avec une plaque de 1m20 sur 1m20, on peut d'ores et déjà faire tous les objets plats qui ont une surface qui est plus petite que ça. Je pense notamment à des tables de bistrot, on fait des chaises donc avec le dossier et l'assise faites par la même plaque. On arrive à faire tous ces objets qui ont une surface inférieure à 1m20 x 1m20. Mais on arrive aussi à avoir d'autres procédés comme celle de la soudure. On peut aussi prendre deux plaques, les souder ensemble et du coup avoir des plaques beaucoup plus grandes. Et donc on arrive à faire des portes, on arrive à faire... là, on est en train de valider une commande d'un mobilier qui est une penderie pour un magasin.
Donc finalement du mobilier par exemple.
Complètement.
Et est-ce que quand on vend du mobilier en plastique recyclé, c'est plus dur ou c'est plus facile de trouver acheteur ?
C'est une très bonne question. Ce qu'il faut savoir, c'est que le plastique recyclé coûte plus cher que le plastique neuf. C'est-à-dire que là, les prix ont nettement baissé pour le plastique recyclé et pour le plastique neuf. Mais si on prend le cas du PEHD, donc polyéthylène haute densité, avant, il pouvait coûter jusqu'à... donc, le polyéthylène haute densité neuf pouvait coûter en gros 1 600 $ la tonne. Là, aujourd'hui, maintenant, il est aux alentours de 900 $ la tonne. Tandis que le recyclé, avant, il était aux alentours de 3 200 la tonne. Et là, il est aux alentours de 1 600.
Et on s'éloigne du bon sens, là. Comment ça se fait ?
Il y a des explications qui sont logiques. Alors, en effet, ça ne tombe pas sous le bon sens ni sous le bien commun. Mais comme le prix du plastique neuf est indexé sur le baril, lorsque le baril est moins cher, bah, le plastique est du coup moins cher.
Juste pour la parenthèse, parce que souvent on oublie qu'en fait le plastique c'est du pétrole.
Tout à fait.
Du coup, c'est le baril du pétrole.
Exactement, pardon, oui. Lorsque du coup c'est indexé sur le baril de pétrole, lorsque le baril est bas, le plastique neuf est bas. Lorsque le baril est plus haut, le plastique neuf est plus haut.
Et parce que la transformation du pétrole au plastique est plus compliquée ou plus coûteuse que le recyclage du plastique ?
Complètement. En fait, lorsque vous créez du plastique neuf, vous faites vous raffinez du pétrole. C'est en gros comme si vous le faisiez chauffer dans une colonne et que selon les strates de là où vous récupérez le pétrole qui s'est recondensé après derrière, ça fait différents types de plastique. Mais du coup, c'est un procédé qui est très simple dans lequel vous avez besoin de pétrole et de chaleur. Tandis que pour le plastique recyclé, vous avez besoin d'aller récupérer le déchet, de le relaver si du coup nécessaire, pour peu qu'il soit souillé par des agents acides, par des produits chimiques qui sont pour le coup nocifs, ou même qu'ils aient baigné dans de l'huile, ou qu'ils aient baigné, dehors. Il faut les pré-traiter avant de pouvoir les gérer.
Et ça veut dire que pour tes acheteurs et tes partenaires, c'est un engagement de choisir le plastique recyclé ?
Oui. Économiquement, c'est d'une part plus coûteux de passer sur du recyclé si on part du principe que c'est sur de l'achat immédiat. Si on se dit par exemple, je vais acheter une chaise en plastique neuf qui vient de Chine, qui va me coûter par exemple 10 balles, ou une chaise en plastique recyclé qui, coûte 100 balles, cet écart-là, il est notoire lorsque l'acheteur va avoir la facture entre ses mains. Or, il est plus économiquement intéressant sur le long terme. Si cette même chaise à 10 balles, elle se casse tous les 3 ans, il va falloir le redébourser. Tandis que, généralement, les entreprises qui travaillent dans le plastique recyclé, lorsqu'elles génèrent un flux en sortie, font toujours en sorte que ce flux en sortie puisse être leur flux en entrée. Je m'explique. Si ma chaise se casse, plutôt qu'ils la jettent et tant pis pour eux, ils peuvent nous la ramener et avec le même matériau, on va le rebroyer, le rebroyer, le refaire en plaque et leur refaire d'autres produits. Soit des produits qui sont identiques, les mêmes chaises, soit un autre design de chaise, soit une table. Mais c'est économiquement plus intéressant sur le long terme, forcément. Mais si on se base vraiment sur le principe de je suis dans de la surconsommation, parce que il y a ça aussi. Aujourd'hui, j'allais dire les entreprises, mais la société de manière générale est quand même sur de la surconsommation. On veut tout très très vite, on veut tout en très grande quantité, le moins cher possible. Ça, pour le coup, c'est aussi un point avec lequel il faut qu'on travaille avec les entreprises pour avoir des achats plus responsables, de vraiment s'intégrer dans une économie plus responsable, plutôt que de choisir entre guillemets la facilité à l'autre bout du monde.
Tu parles d'une économie responsable et là tout à l'heure, en t'entendant Lucille, on voyait quand même ta connaissance du domaine du plastique et notamment parce que tu as été engagé chez Plastique Odyssée, donc je pense que c'est une des raisons pour lesquelles tu connais bien ton sujet. Et si je parle de Plastique Odyssée, ça me permet aussi de faire le lien vers d'autres structures qu'on a reçues dans cette émission, que peuvent être Un Déchet Par Jour, Sauvage Méditerranée, Clean My Calanque, Lemon Tree, ou encore le Kraken qui fait partie de Wings of the Ocean, qui sont d'autres structures qui travaillent sur la question de la récupération du plastique pour en faire autre chose. Et donc dans cette économie du plastique, moi j'aimerais aussi que tu puisses nous expliquer comment vous positionnez. Est-ce que vous travaillez dans un écosystème avec d'autres acteurs ? Est-ce que eux c'est parce qu'ils travaillent plus sur du grand public et vous travaillez plus sur une approche industrielle ? Voilà, que tu nous présentes ça.
Peut-être un point que je voulais vous dire en préambule, c'était que nous, véritablement, le business que l'on a, on travaille dans un domaine qui est par essence vertueux et le but n'est pas de charcler les autres personnes qui travaillent dans le même domaine que nous. On est persuadé que... je vous ai donné le chiffre de 1 million de tonnes de déchets plastiques par an. Nous, dans un de nos ateliers, donc dans une de nos usines, on ne peut traiter que 30 tonnes par an. enfin, ça laisse de la place pour largement tout le monde. Et même, nous, on est vraiment là pour encourager un maximum de ces initiatives-là, parce qu'il y a vraiment à faire. Et donc, je tiens vraiment à saluer toutes ces autres initiatives qui se sont basées sur différents points, et on a chacun nos spécificités, mais chacune d'entre elles doit être soutenue et est réellement louable. À la question ensuite de où est-ce qu'on se place, nous, on se place vraiment plutôt sur un niveau, c'est ça, semi-industriel, industriel, et véritablement plus à viser des entreprises. Pourquoi ? C'est un choix que l'on a fait, qui nous était historiquement vers cela que les différentes entreprises familiales dans le plastique et dans le plastique recyclé avaient travaillé. Et c'est notamment les gisements les plus stables que l'on arrive à du coup trouver. On travaille avec différentes enseignes aussi qui sont des points de collecte pour des bouchons plastiques. Qui est une très belle initiative. L'aspect qui est un petit peu particulier à travailler avec du particulier, c'est que n'étant pas des industriels et n'ayant pas un cahier des charges en entrée très spécifique, on peut trouver de tout et n'importe quoi dans ce qui est trié. Et enfin, pour vous donner un exemple très clair, on a récupéré une cinquantaine de kilos de bouchons plastiques, et le bouchon plastique c'est pas très très lourd, donc ça fait beaucoup, et dans ces sacs là il y a majoritairement de la bonne matière, mais on trouve aussi des couvercles en métal qui pour le coup cassent nos machines, on trouve du liège. Bon, c'est les gens, je suis persuadé de leur bonne foi, de leur bonne volonté, mais nous il y a quand même un pré-traitement et il y a une régularité qu'il n'y a pas comparé à d'autres gisements comme les bâches plastiques dont on a parlé tout à l'heure, ou d'autres gisements qui pour le coup sont beaucoup plus stables.
Je fais un petit point culture plastique. Du coup, il me semble qu'en France, on recycle 30% de notre plastique.
Exactement.
C'est ça.
Exactement.
Qu'en fait, si on en recycle entre guillemets si peu, c'est parce qu'on a beaucoup de mal à le trier. En fait, c'est à la base, effectivement, les gens trie entre guillemets mal le plastique, alors c'est très dur à faire. Et derrière, tous les types de plastiques différents peuvent pas être recyclés ensemble, ça il faut bien comprendre. Il y a au moins 8 familles de plastiques, elles doivent être recyclées chacune séparément, et en fait de trier ces familles de plastiques et même les séparer du métal, de l'organique, etc., ça a un coût immense, ça demande des machines extrêmement compliquées à construire, à utiliser, etc., et c'est pour ça qu'en fait on recycle si peu. Donc pensez à bien trier vos déchets plastiques.
Et pour ne rien aider non plus, lorsque vous prenez par exemple les bouteilles plastiques, vous avez remarqué aussi en bien ou en mal, les bouteilles plastiques maintenant, les bouchons sont intégrés à la bouteille. Or la bouteille et le bouchon sont deux plastiques différents. Donc comment traiter quand vous achetez une bouteille qui est en PET et le bouchon qui est en polyéthylène? Nous consommateurs, en fait, on va pas s'embêter à le retirer à chaque fois, sachant que beaucoup d'efforts a du coup été mis pour que le bouchon soit intégré à cette bouteille là. Mais nous, quand on le recycle derrière, ça nous demande un travail supplémentaire.
Alors ça, c'est intéressant parce que si les marques de bouteilles, de soda, etc. ont accroché le bouchon, leur argument, c'est justement pour l'environnement, pour pas que vous le jetiez dans la mer.
Attention, moi qui étais lobbyiste chez Danone dans ma vie d'avant.
Ouais, moi je. Ouais, ouais.
Avant de partir, justement, il y a des marques qui luttaient contre ça parce qu'en fait, ça nécessitait aussi d'avoir à transformer les moyens de production. Alors que garder le bouchon comme avant, c'était finalement rester sur la même dynamique, et ça avait été posé par Cristaline. Et ensuite, ça a été aussi une directive ou une réglementation française qui avait poussé tout ça pour que ça finisse pas dans la mer.
Et notamment une taxe aussi où, comme le déchet issu de ces producteurs, donc d'eau, de soda ou autre, comme le bouchon plastique et la bouteille faisaient deux déchets, ils devaient payer deux taxes. Mais du coup, en faisant plus qu'un, ils n'en payent plus qu'une. Donc il y a aussi un aspect économique derrière, mais ça doit fonctionner aussi peut-être.
J'aimerais avant la pause qu'on puisse rebondir sur ce dernier mot, un aspect économique. Tout à l'heure, tu nous parlais de bon sens, on a beaucoup parlé d'économie, notamment d'économie de la fonctionnalité, et ça peut être intéressant sur un projet qui a vocation industrielle sur un territoire, de pouvoir rapidement nous présenter le business model qui fait tourner la boutique, parce que dans une forêt possible, c'est aussi important qu'à la fin, on puisse payer les factures, faire vivre les gens, et donc que tu nous présentes comment fonctionne Carbon Blue.
Carbon Blue travaille sur deux échelles. Donc, je vous ai dit précédemment que nous, notre but, notre rêve, c'est qu'il y ait beaucoup plus de personnes, beaucoup plus d'entrepreneurs et d'initiatives pour la gestion de ces déchets plastiques-là. Et donc, il y a une première partie donc, qui est principalement gérée par Stéphane, par mon paternel, qui lui s'occupe à démocratiser et à trouver de plus en plus d'entrepreneurs qui seraient prêts à se lancer dans l'aventure telle qu'est la nôtre pour créer des micro-usines. Donc c'est vraiment sur un accompagnement à qu'est-ce que c'est que le plastique, à quelles sont les machines, comment est-ce qu'on peut vous former, comment est-ce qu'on peut vous aider à vous intégrer sur un écosystème local. Et on vient de livrer notre première micro-usine à une entreprise qui s'appelle Plastou du côté de Bordeaux, que du coup eux dans un écosystème local puissent gérer tous ces plastiques là. Donc il y a une première partie qui est une échelle que je dirais un peu stratégique, où comment est-ce qu'on arrive à scalabiliser un petit peu notre concept de ces micro-usines là en vente de produits, enfin en vente de machines, formation d'autres entreprises. Et une autre partie qui est vraiment une échelle beaucoup plus locale que je gère. Donc je gère l'usine que l'on a du côté de Gemnos, qui elle est, on va voir les entreprises dans un rayon de 50 km et on leur dit quelles sont vos problématiques liées à vos déchets plastiques. On trouve ensuite une solution pour leur collecter, et la collecte de ces déchets plastiques là on la fait de manière gratuite, c'est à dire que eux payent une entreprise pour qu'on leur récupère leurs déchets plastiques sous format de benne ou autre, mais à l'arrivée, on leur a juste enlevé ce déchet-là et ils n'ont rien derrière. Et donc, on leur récupère leurs déchets plastiques que l'on traite, nous, de notre côté, et ces personnes-là nous rachètent le déchet qu'on leur a récupéré sous une autre forme, sous forme de banc, de chaise, de table ou autre. Donc là, c'est vraiment le type... Je dirais, ce sont des clients, mais ce sont surtout des partenaires qui veulent se mouiller le maillot et qui veulent vraiment travailler avec nous de cette manière-là. Et on a aussi d'autres entreprises qui souhaitent simplement acheter de manière one-shot du mobilier recyclé.
Ouais, et puis tu me disais en préparant l'émission que c'était aussi une façon de pouvoir engager les collaborateurs et faire de la politique RSE, que d'impliquer les collaborateurs sur finalement l'ensemble des chaînes à différents endroits, de se dire qu'à un moment c'est un déchet mais ensuite ça va pouvoir de nouveau être une ressource et va être récupéré à un certain moment, et donc d'avoir une prise de conscience de notre impact.
Gros impact.
Merci beaucoup pour cette première partie d'émission où on a vraiment pu passer du moi au nous, et donc comment est-ce qu'on passe de ton parcours vers un projet qui a une vocation enracinée sur le territoire d'Orient. Je te laisse nous présenter la musique que tu as décidé de nous faire écouter pour la pause musicale avant qu'on revienne en deuxième partie d'émission avec quelques enjeux de société.
On m'avait pas dit que je vais en parler, tiens donc. Alors c'est une musique que j'aime beaucoup, d'un artiste que j'aime beaucoup qui s'appelle Georges Brassens, un très très petit artiste de la ville de Sète. C'est une musique qui s'appelle Le Testament et qui est une musique qui aborde la mort avec une telle légèreté, une telle simplicité et tellement d'humour que je l'écoute énormément ces derniers temps et je l'aime beaucoup.
Merci pour ces mots qui nous touchent. Et on se retrouve juste après dans l'émission de La Forêt des Possibles. A tout de suite.
Je serai triste comme un saule quand le Dieu qui partout me suit me dira la main sur l'épaule, va-t'en voir là-haut si j'y suis. Alors du ciel et de la terre, il me faudra faire mon deuil. Est-il encore debout le chêne ou le sapin de mon cercueil? Est-il encore debout le chêne ou le sapin de mon cercueil? S'il faut aller au cimetière, je prendrai le chemin le plus long. ferai la tombe buissonnière, je quitterai la vie à reculons. Tant pis si les croque-morts me grondent, tant pis s'ils me croient fou allié. Je veux partir pour l'autre monde par le chemin des écoliers. Je veux partir pour l'autre monde par le chemin des écoliers. Avant d'aller compter fleurettes aux belles âmes des damnés, je rêve d'encore une amourette, je rêve d'encore m'enjuponner. Encore une fois dire je t'aime, encore une fois perdre le nord. En effeuillant le chrysanthème qui est la marguerite des morts. En effeuillant le chrysanthème qui est la marguerite des morts. Dieu veuille que ma veuve s'alarme en enterrant son compagnon, et pour lui faire verser des larmes, il n'y ait pas besoin d'oignon. Qu'elle prenne en seconde noce un époux de mon acabit. Il pourra profiter de mes bottes et de mes pantoufles et de mes habits. Il pourra profiter de mes bottes et de mes pantoufles et de mes habits. Qu'il boive mon vin, qu'il aime ma femme, qu'il fume ma pipe et mon tabac. Mais que jamais mort de mon âme, jamais il ne fouette mes chats. Quoique je n'ai pas un atome, une ombre de méchanceté. S'il fouette mes chats, y a un fantôme qui viendra le persécuter. S'il fouette mes chats, y a un fantôme qui viendra le persécuter. Ici gît une feuille morte, ici finit mon testament. On a marqué dessus ma porte, fermée pour cause d'enterrement. J'ai quitté la vie sans rancune, j'aurai plus jamais mal aux dents. Me v'là dans la fosse commune, la fosse commune du temps. Me v'là dans la fosse commune du temps.
Ça fait du bien, Georges Brassens. Un mercredi soir, vous êtes toujours sur Radio Galère 88.4 FM et on est au milieu, aux deux tiers de l'émission de La Forêt des Possibles avec Dorian Testa de Carbon Blue et Marin Moffret à l'animation.
Merci à toi, Lucille, pour cette réintroduction. Et pour celles et ceux qui nous écoutent, on a eu vraiment le premier passage du moi vers le nous, donc de ton cheminement, Dorian, vers l'inscription dans l'entreprise familiale de Carbon Blue. Et maintenant, on va passer du nous vers le tout, c'est-à-dire la façon dont vous agissez à votre échelle à la transformation de la société, ou tout simplement le fait d'agir pour que nous puissions continuer à vivre dignement aujourd'hui et demain. Et une image qu'on utilise souvent dans cette émission, c'est l'économie du donut. Alors, pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est que l'économie du donut, visualisez-vous un donut. Vous allez avoir une ligne qui va se trouver en haut, une première frontière, et une ligne qui va se trouver au centre. Et donc ça, ce sont deux limites qui sont d'un côté un plancher social et de l'autre côté un plafond écologique. Et donc pour qu'une société puisse vivre dignement, il faut vivre à l'intérieur du donut. Si jamais on est dans le trou central, c'est qu'on ne répond pas aux besoins des humains. Et si on sort de la limite extérieure, c'est qu'on a complètement surexploité les ressources planétaires. Donc l'enjeu, c'est vraiment d'être entre ces deux frontières pour que nous puissions vivre dans un espace dit sûr. Et donc ces deux frontières, elles sont sociales et écologiques. Et ce qu'on va travailler, discuter avec toi, Dorian, c'est la façon dont Carbon Blue, à son échelle, participe sur ces deux volets, le côté social et le volet écologique. Et donc on va commencer avec l'aspect social. Et un point que tu me présentais beaucoup lorsqu'on s'est rencontrés, puis lorsqu'on a préparé l'émission et qui m'a l'air vraiment de te tenir à cœur, c'est l'aspect de la dignité par le travail, et notamment la quête de sens par un travail qui soit sensé avec ses mains pour quelque chose qui a une vocation sociale élevée. Je te laisse nous en dire davantage.
Non, je suis tout à fait d'accord avec les mots que je t'ai dit, en fait. Je connais beaucoup de personnes dans mon entourage, même qui ayant vécu des choses fortes ou ayant peut-être à un moment donné pas su trop quoi faire ou vers où aller, ont vraiment perdu ce goût à leur propre dignité. Et c'est vraiment des sentiments, ce sont des sentiments qui font très mal au cœur, parce que quand on connaît l'être en face et qu'on connaît quel prix il a, quel trésor c'est, de le voir complètement démuni vis-à-vis de lui-même, c'est vraiment un aspect qui est très dur à vivre. Et un point que l'on porte aussi chez Carbon Blue, c'est on est persuadé que, donc, d'une part, la réponse la plus efficace à ce problème de la mauvaise gestion des déchets plastiques dans le monde ne peut se traiter qu'à échelle locale. On est aussi persuadé d'une autre chose, c'est que c'est en travaillant avec ses mains que l'on peut renouer avec sa personne. Je connais beaucoup de personnes qui ont travaillé notamment dans divers travaux de service ou de consulting, mais qui presque faisaient du consulting pour du consulting sur des services de consulting, et qui en fait étaient tellement loin du réel qu'à un moment donné, quand tu leur posais la question « mais attends, là tu fais du consulting, pourquoi ?», les gars étaient perdus.
Ça me fait penser à une œuvre absolument magnifique que j'ai lue l'été dernier, qui s'appelle L'Enracinement de Simone Weil, la philosophe, qui analyse comment la société a été déracinée à l'époque de la Seconde Guerre mondiale et comment est-ce qu'elle peut se réenraciner. Elle a une approche spirituelle qui est extrêmement profonde, et elle dit, et ça va quand même faire un lien avec plein de trucs parce que l'enracinement c'est quand même la forêt des possibles aussi, elle dit qu'il y a deux choses sur lesquelles il faut consentir: le rapport à la mort, c'est de la musique que tu nous as fait écouter juste avant, et le fait de pouvoir participer à la géométrie du monde, en fait, où elle voit une espèce d'enchevêtrement de lois qui s'imbriquent les unes dans les autres, par le fait nous-mêmes d'y être actifs par le travail, et principalement par le travail manuel. Donc je vous invite à lire cette œuvre qui a été considérée par Camus comme étant l'une des plus hautes qui a été écrite sur la civilisation, et je trouve que ça fait sens avec ce que tu viens de nous partager.
Complètement. Et pour le coup, alors, ce travail-là doit permettre de renouer avec sa personne, mais il ne doit pas être le tout. Il y a une phrase qui est malheureusement tristement célèbre: le travail vous rendra libre, qui est une phrase qui malheureusement a été placardée sur Auschwitz, où les personnes, du coup, seulement à travers leur travail pouvaient retrouver cette liberté-là. Or, fondamentalement, c'est le travail ensuite qui, toi, te permet de renouer avec toi-même et qui te permet de du coup faire partir de quelque chose de plus grand, de renouer avec ta nature et de refaire partie d'un tout plus grand que toi. Et véritablement, dans ce travail manuel de retoucher aux choses, de retrouver goût à ce réel et non plus seulement à du numérique ou à du virtuel, je suis persuadé qu'une grande partie des nombreuses dépressions que l'on peut vivre aujourd'hui, et que la jeunesse vit aussi énormément hein, à travers les réseaux sociaux, à travers ce genre de choses, de renouer avec le réel, de renouer avec le concret, peut considérablement changer les gens. Et c'est en changeant les gens ensuite que l'on peut rechanger les mœurs, que l'on peut renouer avec un lien social qui aujourd'hui est beaucoup trop abstrait.
Je vois très bien ce que tu veux dire, dans le sens où à un moment où moi j'étais un peu perdu dans ma tête avec une très grosse crise existentielle, le fait de faire de la permaculture, alors ça n'a pas été le fait de travailler la matière recyclée plastique, mais c'était quand même mettre les mains dans la terre, que j'ai fait pendant tout le confinement, et ensuite m'engager dans les quartiers à faire des choses parfois hyper simples, et même là le fait d'être super cafouche, c'est parfois juste ranger des cartons. On sent concrètement ce qu'on est en train de faire, c'est palpable, et on sait ce à quoi on contribue aussi. Comme tu disais, on arrive concrètement à savoir qu'on est un petit bout d'un grand puzzle, mais on sait quelle pièce on apporte dans le puzzle.
Tout à fait, et même pour te paraphraser en début d'émission, l'une des questions était comment est-ce qu'on peut trouver sa place, pour le coup, quand on est sur quelque chose qui n'est pas palpable. Ta place, c'est quelqu'un qui te la donne. Là, quand on te dit, en fait, là, tu vas prendre ta bêche et tu vas bêcher la terre et tu vas planter des carottes, ta place, tu l'as trouvée. Là, c'est vraiment toi qui aura planté tes patates, qui aura planté tes carottes, et tu sais véritablement que ce que tu as fait aura porté du fruit. Et dans l'image de l'arbre aussi, le tout n'est pas d'être un arbre stérile, c'est de quand même porter du fruit. Et lorsque tu vas du coup travailler et donner de ta personne, c'est là où véritablement je pense que tu peux te retrouver. Et du coup vivre quelque chose qui est beaucoup plus ancré dans le réel plutôt que voilà que complètement désenraciné.
Bah écoute, merci de t'approprier la métaphore qu'on essaie effectivement de tracer d'émission en émission, et puis de donner la parole à celles et ceux qui font aussi. Et là, on a beaucoup parlé de cet aspect social, et franchement, ça me travaille, c'est les propos que tu viens de nous partager. Et il y a un côté écologique aussi,
tout à
qui,
fait.
Alors, on en a beaucoup parlé avant, qui se situe à plein de volets différents, sur les 5 R du recyclage, du fait de refuser, du fait de réduire, du fait de réutiliser ou de rendre à la terre de la ressource, qui se situe aussi sur le fait d'essayer d'éviter les pertes. Il y a un aspect qui est intéressant et qui est lié à l'aspect social, c'est l'inscription dans une économie locale. Et j'aimerais que tu nous partages pourquoi est-ce que pour toi c'est intéressant. Moi, je peux te donner la mienne. À mes yeux, ce qui est intéressant, c'est que c'est suffisamment vaste pour avoir un écosystème entier avec des acteurs différents qui vont pouvoir rentrer en interconnexion et pouvoir construire à niveau miniature une petite société qui arrive à subvenir à l'ensemble des besoins des citoyens qui habitent sur ce territoire-là. Et en même temps, l'échelle est suffisamment petite pour qu'on puisse se connaître et être dans des liens d'interconnaissance entre différents acteurs, entre différentes structures, parce qu'on partage une culture commune, parce qu'on partage un territoire commun, on partage une météo commune, et que c'est suffisamment petit pour qu'on arrive à faire corps ensemble. Est-ce que c'est quelque chose que tu partages aussi ?
Complètement. Et un mot qui me venait aussi, c'est que si on n'est pas dans une échelle locale, rien ne m'empêche d'aller bosser ici ou à l'autre bout du monde. Et c'est malgré tout un état d'esprit un peu de consommation instantanée. Donc quand je ne serai plus rassasié à un autre endroit, rien ne m'empêchera d'aller dans un autre et encore dans un autre. Et je vais radoter, hein, mais le fait de rester dans un écosystème et dans une échelle locale permet non seulement de faire pousser des racines, mais des racines qui tiennent. Et je suis persuadé, alors que si...
C'est la forêt, ça.
Pour une raison X ou Y, le projet Carbon Blue venait à s'arrêter, je suis persuadé qu'il y aura quand même des fruits qui auront été mis en terre et que ces fruits-là porteront aussi. C'est pas en étant itinérant en dehors que dans l'échelle locale, mais étant itinérant à travers le monde, qu'on aura la possibilité de vraiment pouvoir porter du fruit et que le fruit demeure. Je pense vraiment que... En étant dans un écosystème local, alors, et qui plus est, moi j'ai fait le choix aussi de rester sur Marseille, là où mon arrière-arrière-grand-père était venu, et toute ma famille est d'ici. On n'a pas bougé d'ici, alors un peu chauvin quand même, mais de vraiment vouloir aussi être dans cet héritage et de garder quelque chose, c'est... Pour moi, en fait, c'est quand même du bon sens écologique. Enfin, je saurais pas l'expliquer avec des mots plus savants que ça. Je pense qu'il y a des personnes qui ont théorisé ça de manière beaucoup plus.
C'est pas ce qu'on attend. C'est aussi un retour de terrain. Ouais. Et je t'invite à ce qu'on puisse se plonger dans notre dernière question, qui est une question un peu surprise. Alors, pour cette question surprise, je vais t'inviter à fermer les yeux. Et tu nous as dit, là, tu plusieurs fois, s'enraciner pour porter du fruit, un arbre fructueux. Tu habites toujours Marseille, on est dans 10 ans. Et dans 10 ans, les fruits que tu espères sont arrivés, ils sont mûrs. Et donc, ils sont palpables eux aussi. Ils sont goûtus. J'aimerais que tu les visualises, et que tu les goûtes dans les différents sens de ce que ça implique. Dans leurs saveurs, dans leurs odeurs, dans les bruits qui peuvent être autour de ça. J'aimerais que ces fruits, tu les partages avec les gens qui t'entourent et que ensuite tu prennes un vélo et que tu ailles te promener autour de chez toi. Et j'aimerais que tu visualises tout ça. Et donc en fait, tu visualises du mot nous et du nous au tout. C'est quoi le fruit, qui tu es, ce que tu ressens, ce qui se passe autour de toi et ensuite ce qui se passe à Marseille dans 10 ans. Ça là, ce qu'on propose, c'est un petit atelier qui est souvent fait par Arthur Lanterre à Marseille, les 2030 Glorieuses. Ça marche assez bien, c'est un exercice de prospection. Et j'aimerais que tu reviennes à nous et que tu nous dises ce que tu as vu, ce que tu as ressenti et à quoi ressemblaient ces fruits et à quoi ressemblait cette ville.
Alors l'échelle à 10 ans, je vais avoir des yeux optimistes. C'est vraiment ce que j'espère. Mais à 10 ans, pour moi, les poubelles de déchets plastiques, il n'y en a plus dans la rue. Il y a des espèces de magasins avec des vitrines, avec des grandes baies vitrées, dans lesquelles on voit des personnes qui ramènent voilà, différents déchets plastiques et qui ont la possibilité, en libre-service ou accompagné, de pouvoir préparer leur matière, chauffer leur matière et sortir avec un produit concret, avec quelque chose de vraiment palpable. Et que cet espace-là soit non seulement un lieu de production où il y a clairement des gens qui font la queue dehors, mais surtout un lieu de rencontre, un lieu d'échange. Ah ben tiens, moi j'ai fait tel et tel produit. Ah ben tiens, regarde, moi j'en ai fait tel et tel autre. Un lieu d'échange pour renouer un petit peu ce lien de quartier, parce que là, je sais pas. Est-ce qu'il y en a un par quartier ? Est-ce qu'il y en a un par ville ? Je sais pas te dire, mais dans ce que je vois autour de moi, là, j'en vois un. Et voilà. Et qui renoue ce lien à la fois avec cette conception très, très, très consumériste de qu'est-ce que c'est qu'un déchet ? C'est tout ce dont quelqu'un n'a plus besoin à l'instant T. Et pour le coup... Comment est-ce qu'on peut faire changer cette mentalité pour que non, en fait, c'est pas un déchet, c'est la matière première que je vais utiliser moi pour le requalifier en quelque chose d'autre.
C'est intéressant, en fait, on arrête d'enfouir et de cacher nos ordures, on arrête de mettre la poussière sur le tapis, on se rappelle que un déchet, c'est une ressource et on en fait un quelque chose à échanger, quoi, à travailler, un sujet de discussion.
Bah écoutez, merci à tous les deux, tous les trois. Merci à toi, Dorian Testa, de nous avoir présenté Carbon Blue.
Plaisir, merci à vous de m'avoir accueilli.
Bah merci aussi à Mathieu en régie.
Merci à tous.
Et un petit merci spécial à toi, Lucille, parce que tu as rejoint notre équipe en mars dernier et tu as apporté ta bonne humeur, ta fraîcheur, ton plaisir d'être de l'autre côté souvent du studio, plus en régie, et donc ça a souvent été particulièrement utile pour enregistrer ces émissions, sans quoi ça ne serait pas possible. Et tu vas bientôt partir vers d'autres horizons. Donc c'était pour toi ta dernière émission, et au nom de l'équipe, je tiens à te remercier parce que c'était un véritable plaisir de les enregistrer avec toi.
Merci pour cet accueil, Marin. Ouais, merci pour votre générosité. Je pensais rester plus longtemps, mais la vie m'embarque. Je reviendrai vous voir et je vous écouterai.
Eh bien, avec plaisir, sache que ta présence parmi nous sera toujours la bienvenue. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine, à la même heure, sur la même chaîne, et nous recevrons le Tiers Lab des Transitions et le LICA. Bonne soirée.
Bonne soirée.
Disintegrating, Christine.